Alors, la poursuite de l'émission de jeudi dernier, qui avait pour titre « Est-ce que ceux qui ont la foi sont naïfs et insensés ?» On peut lui donner le même titre. Et, mais on s'applique, je vous en avais glissé un mot, si vous vous en souvenez, sur les dogmes. Qu'est-ce que c'est ça, des dogmes? C'est toujours la même question. Est-ce que ceux qui croient à tous ces dogmes, est-ce que ceux qui ont la foi là-dedans, est-ce qu'ils sont naïfs, insensés? Pourtant, il y a des gens comme Fernand Dumont qui vient de mourir, l'un des plus grands cerveaux de notre pays, y croyait. Vraiment, l'un des plus grands cerveaux, je ne blague pas, là, je n'exagère en rien quand je parle de Fernand Dumont de cette façon. Il y en va de même d'éminents prix Nobel français, de très grands écrivains, de très grands penseurs, et je vous en ai donné d'ailleurs, jeudi dernier, une liste de ceux que j'ai eu la chance de rencontrer en réalisant des émissions à Radio-Canada autrefois alors que j'étais réalisateur durant une trentaine d'années. Or, les dogmes, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il faut croire, hein, vous le savez presque tous, c'est ce qu'il faut croire pour être chrétien, c'est-à-dire pour être catholique en particulier, des dogmes. C'est une conviction très ancienne que l'Église a. Elle a toujours pensé, l'Église, et puis avec raison à mon avis, qu'elle avait reçu du Christ le pouvoir. Le pouvoir de quoi? De dire et de définir la vérité dans les questions fondamentales, essentielles de sa foi. On trouve ça dans l'Évangile, d'ailleurs. Oui. Alors, si on accepte l'Évangile, si on accepte Jésus-Christ, il faut bien être conséquent avec soi-même. Et dans cet Évangile, Jésus dit à Saint-Pierre, c'est dans Saint-Matthieu, chapitre 16, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Je te le déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Les clés du royaume des cieux, c'est ce que ça veut dire, au fond. Tout ce que tu auras lié sur la terre, il insiste, Jésus, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu n'auras, tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Évidemment qu'on peut faire des interprétations peut-être différentes, mais l'interprétation traditionnelle, assurée. D'ailleurs, on la retrouve dès le IVe siècle. On appelle dogme ces vérités de foi qui sont contenues dans la révélation, c'est-à-dire dans la Bible, et proposées donc à la foi de tous les chrétiens, dans et par l'Église hiérarchique, par les évêques, soit par l'enseignement d'un magistère ordinaire et universel, soit par un magistère extraordinaire. Je vais vous expliquer tout ça. Ça peut sembler compliqué, c'est pas compliqué du tout, faites-vous-en pas. D'ailleurs, commençons par le mot « dogme ». Savez-vous d'où vient le mot « dogme » hein? Le mot « dogme » vient du verbe grec « dokein », qui signifie quoi? C'est intéressant de savoir ce que ça signifie au tout début. Ça signifie « sembler bon ».« Dokein », »,« sembler bon ». Et de ce verbe, « dokein », sont issus deux mots, deux substantifs, « doxa » et « dogma », dont les sens sont différenciés peu à peu. Le premier a gardé son sens premier d'opinion peu certaine, du doxa. Tandis que le second, dogma, là, a fini par désigner d'abord l'affirmation du géomètre. Et quand un géomètre parle, c'est clair, bon, les triangles, isocèles, etc., 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 c'est des affirmations, c'est clair, c'est définitif. Et la décision du juge, aussi, doit être considérée comme définitive. Ça devient, on considère ça au tout début, dans le monde profane, comme un dogme. Dogme. Ça peut être aussi, finalement, le décret du Sénat, les autorités politiques. Dans la traduction grecque, mettons, rentrons dans le domaine religieux, là. Dans la traduction grecque, je dis bien grecque, de la Bible, faite par les Septante, ça veut dire les 70 traducteurs, ou dans le Nouveau Testament, que ce soit la Bible, l'Ancien ou le Nouveau Testament, le mot dogme signifie un décret, une prescription légale ou disciplinaire, On trouve ça dans les textes grecs de Saint Luc, puis tous les Éphésiens, des Actes, etc. Les pères grecs et latins de l'Église, là, des trois premiers siècles, eux, ils englobent sous ce mot dogme tout ce qui s'impose à la croyance et à la pratique chrétienne, hein? C'est ça, les dogmes. Tout ce qui s'impose à la croyance et à la pratique chrétienne. Puis par la suite, dans le courant du IVe siècle, la signification du mot dogme se restreint pour désigner, quoi? Les vérités religieuses irréformables parce que révélées. C'est ça. Il a bien fallu que les choses s'organisent, s'affermissent et soient claires. On peut pas croire n'importe quoi. On peut pas dire n'importe quoi. Il faut bien qu'il y ait des... Qui est Jésus-Christ? Est-ce que c'est rien qu'un prophète ou s'il est vraiment le Fils éternel de Dieu qui s'est incarné? C'est une des vérités fondamentales. Il faut se décider à un moment donné en cherchant. Et les autorités ont pris des décisions. Le mot est très employé, le mot dogme, par les conciles du haut Moyen-Âge. Au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin lui préfère l'expression « articulus fidei », c'est-à-dire un article de foi. Mais le mot dogme est redevenu d'usage courant depuis, d'ailleurs, surtout, disons, le concile de Trente, là, au XVIe siècle. On parle plus d'article de foi, très rarement, tu lis que le mot dogme ici. Il y a des gens qui ont peur de ce mot-là, dogme. Ça leur fait peur. Ayez pas peur, ayez pas peur. C'est un beau mot. Et si l'Église primitive, l'Église catholique, là, du tout début, avec l'Église orthodoxe et les grandes Églises qui étaient toutes unies, là, si l'Église primitive n'utilisait pas le mot dogme, pourquoi qu'elle ne l'utilisait pas? C'est parce qu'elle était convaincue que le Seigneur Jésus, le Christ, ne pouvait pas permettre qu'elle tombe dans l'erreur. Jésus lui a d'ailleurs promis l'assistance de l'Esprit. Et ça, les chrétiens y croient ces paroles de Jésus dans l'Évangile. Hein? C'est dans Saint Jean, puis dans les Actes des Apôtres. Il est dit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est ce qu'on appelle aussi la tradition qui s'ajoute à la Bible proprement dite. Saint Paul, lui, n'hésite pas d'ailleurs à traiter d'anathème celui qui oserait interpréter le mystère du Christ autrement qu'il ne le fait. Là. Qui est le Christ? Il le définit, il dit qui c'est, puis il traite d'anathème celui qui s'oppose à ça. Anathème, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire excommunié. Excommunié, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est celui qui est retranché de la communion de l'Église, qui est retiré. Ah, voici ce que saint Paul disait. Ne se gêne pas. Je vous dis ça, c'est pas long. Si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, écrit Paul aux Galates, qu'il soit anathème. On peut se poser la question si cet ange Gabriel qui est venu annoncer à Mohammed un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Est-ce que ça voudrait dire que Mohammed est anathème d'après saint Paul? On peut se poser cette question. Je n'ose pas me prononcer. Et saint Paul recommande à son disciple Timothée de ne pas hésiter, malgré sa jeunesse, à combattre les esprits trompeurs, dit-il, puis les doctrines diaboliques qui s'insinuent parmi les fidèles, comme quoi on ne peut pas croire n'importe quoi et tout ce que va enseigner n'importe qui. Il faut dire que depuis plusieurs siècles, et surtout depuis quelques siècles, des millions de chrétiens n'écoute pas ces avertissements de saint Paul. Dans les toutes premières décennies de l'histoire de l'Église, les évêques ont considéré qu'ils avaient autorité, hein, autorité pour combattre toutes ces idées subversives qui contaminaient leur communauté. Et la lutte contre toutes ces hérésies, ces idées différentes de ce qui est contenu dans la Bible de façon claire et définie, mais ça occupe une grande place dans leur apostolat. Pensons à Ignace d'Antioche qui est mort, savez-vous quand, en l'an 110. Je vous ai fait d'ailleurs une émission le 17 octobre 96. Je vous ai fait aussi une demi-heure sur lui le 12 octobre, ou le 17 octobre plutôt, 95. J'avais mélangé ça avec Pie XII. La première partie, c'était Ignace d'Antioche, le deuxième, Pie XII. Mais le 17 octobre 96, c'est tout consacré à Ignace d'Antioche, qui est un des grands personnages de l'Église. Eh bien, Ignace d'Antioche, mort en 110, combat les erreurs de son temps. Comment? En insistant sur l'importance de la soumission tout simplement à la hiérarchie ecclésiastique constituée par l'évêque, puis l'ensemble des prêtres, puis les diacres. Il dit, si quelqu'un suit une doctrine étrangère, il ne participe pas à la passion du Christ. Hein, c'est tôt, ça. C'est avant l'an 110. Saint Irénée, lui, est mort pas tout à fait 100 ans plus tard, il est mort en 202. C'est un grand évêque, successeur de Potin, sur le siège de Lyon, dans le sud de la France. Il écrit un ouvrage volumineux contre la gnose de son temps. C'est intitulé « Contre les hérésies ». Bon, ça, 750 pages aux éditions du Cerf. Alors, c'est très important. Écoutez bien, quand... Mais l'Église s'est vite rendue compte que le pouvoir de dire la vérité, là, entière, n'était pas confié aux évêques, pris isolément, mais à l'ensemble des évêques, ce qu'on appelle le corps épiscopal. Surtout lorsqu'ils se réunissent autour du pape de Rome, dans un concile écuménique comme celui qu'on a eu dans les années 60, Vatican II. Ce pouvoir d'enseigner qu'ont les évêques, on l'appelle depuis le 19e siècle, c'est le pouvoir de magistère. Afin de bien distinguer des autres pouvoirs, le pouvoir d'ordre, qui est celui de célébrer les sacrements de l'ordre, le sacrement de l'ordre, le pouvoir des prêtres, le pouvoir de juridiction, c'est celui de diriger, d'administrer leur diocèse, ça c'est les évêques. Alors, écoutez bien ceci. Pour bien montrer, que le charisme d'infaillibilité confié au pape et aux évêques est ordonné au maintien de la foi, dans l'ensemble de tous les chrétiens, de tous les catholiques, on se plaît à dire que l'infaillibilité conciliaire d'un concile ou pontificale du pape est ordonnée à quoi? À l'indéfectibilité de l'Église. Elle est indéfectible, elle ne peut pas se tromper. Ça a été promis par Jésus-Christ. Distinction, ça, qui présente l'avantage de nous rappeler que l'Esprit-Saint agit aussi dans le cœur de tous les chrétiens pour les maintenir dans la foi droite. C'est le magistère qui détermine la foi des fidèles, mais, écoutez bien, c'est toute l'Église qui la garde, vous, moi, oui. Mais qu'est-ce que l'Église pense de ce pouvoir merveilleux reçu du Christ et de son Esprit, et qui lui permet de prononcer des paroles définitives en matière de foi et de morale? C'est très important pour apprendre à aimer ce que l'Église décide, ou a décidé. Il ne s'agit pas de naïveté de notre part, pas du tout. Alors on peut donc se demander, quelles sont les conditions d'une définition dogmatique? Qu'est-ce qui fait qu'un dogme est un dogme? Bien, puisqu'un dogme est une affirmation proposée par le magistère de l'Église à la foi de tous les catholiques, il y a deux conditions qui sont requises pour qu'une assertion d'Église soit un dogme. Premièrement, le dogme doit appartenir à la parole de Dieu, c'est-à-dire à la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tout d'abord, je voudrais vous mettre en garde. Quand l'Église reconnaît la réalité des apparitions de Marie à Sainte Bernadette à Lourdes, ou l'authenticité d'un miracle, ou ben, l'héroïcité des vertus du frère André, lorsqu'elle approuve un ordre religieux, ou qu'elle inscrit un nouveau saint même dans son calendrier en le canonisant, ben, elle pense être assistée par l'Esprit-Saint, mais, écoutez bien, mais, elle ne présente pas tout ça comme des dogmes. Infaillible, irréformable. Même si quelqu'un, l'après-midi à Radio Ville-Marie, a déjà dit le contraire, que les canonisations, c'était comme des dogmes. Ben, voyons donc. C'est la même chose lorsqu'un pape publie une encyclique. Les catholiques sont invités, je dis bien invités, à la recevoir avec respect, mais ils ne sont pas obligés de la lire comme un document infaillible en tout point. D'ailleurs, les papes font souvent appel à un théologien là, pour rédiger ces encycliques-là. Puis du coup, les encycliques reflètent plus ou moins la théologie ou la terminologie de cet auteur. Ainsi, l'influence du père Lebray, là, le fameux dominicain, sur l'encyclique de Paul VI, l'encyclique extraordinaire consacrée au développement des peuples. Qui est le père Lebray? Je vais vous en parler un jour, mais il a écrit des ouvrages extrêmement important, j'ai tout ça dans ma bibliothèque, le suicide ou survie de l'Occident, un dossier pour comprendre les problèmes de ce temps, puis il écrit des ouvrages magnifiques, des prières, des appels au Seigneur, puis rajeunir même l'examen de conscience. Ah, quel beau livre! Ah, il faut que je vous parle du père Lebray. Mais alors qu'un dogme soit contenu dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans la Bible, ne signifie pas qu'il soit facile de l'y retrouver immédiatement, et c'est pas évident de lire dans le verset, mettons, de Saint-Luc, « Réjouis-toi pleine de grâce, une plénitude de grâce allant jusqu'à l'absence de tout péché, comme on a promulgué le dogme de l'Immaculée Conception. » Alors j'arrête là quelques instants pour écouter une œuvre de Flavien Pierson, l'homme de Nazareth, interprété par l'orchestre de l'île de la Cité à Paris sous la direction de Marc-Philippe Baudouin, c'est intitulé « Dans le jardin d'Iès ». Alors, nous revenons à ce problème des dogmes qui fatiguent tellement de gens qui ne veulent pas prendre tel dogme, ils ne veulent pas accepter celui-là, mais ils prennent l'autre. Mais on prend l'ensemble. C'est toute une structure admirable. J'ai de vous insinuer que l'Église met parfois des siècles à prendre conscience de toute la richesse contenue dans un passage de l'Écriture. C'est comme ça que l'Immaculée Conception n'a été promulguée qu'au milieu du siècle dernier. Vous savez que l'infaillibilité pontificale, quand le pape parle ex cathedra, n'a été utilisée que 2 fois en 150 ans. C'est très, très, très rare. Le pape n'est pas infaillible dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il écrit, dans tout ce qu'il signe. Mais ça doit être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lu avec respect, surtout quand c'est question des encycliques proprement dites. Alors, d'autre part, même quand la Bible, sans présenter clairement une affirmation dogmatique. Et les catholiques ont quand même besoin du magistère doctrinal de l'Église pour être sûr, oui, pour être sûr de se trouver devant une parole d'écriture à prendre d'une certaine façon à la lettre, disons. Il faut que l'interprétation soit solide. On ne peut pas se fier simplement soi-même ou à n'importe quel autodidacte qui nous enseigne dans un fond de cour qu'il a fondé une église et que lui, il comprend la Bible de telle façon. Vraiment, il faut être sérieux. Et sans cette intervention du magistère, les fidèles pourraient être tentés d'interpréter n'importe comment. On le voit bien chez ceux qui ne croient pas ou ne croient plus à cette autorité doctrinale de l'Église hiérarchique. Regardez autour de vous, des centaines de dénominations chrétiennes. On dit qu'il y en a des milliers, on dit même qu'il y en a plus de 20 000. On dit même que c'est... J'ai lu dernièrement qu'il y en aurait 30 000 sur Terre, dénominations chrétiennes différentes qui se disent « c'est moi qui ai raison ». Quand même, hein? Ils entendent souvent... de façon purement symbolique, là, les paroles du Nouveau Testament, qui ont trait à la conception virginale du Christ, à l'Eucharistie, ou à l'enfer. Et puis ça pénètre même à l'intérieur de l'Église, toutes ces idées. Puis deuxièmement, Il faut que ce que le magistère de l'Église propose à la foi de tous les fidèles, mais il faut que cette proposition se fasse comment, là? Dans une déclaration vraiment solennelle, soit au cours d'un concile œcuménique qui réunit tous les évêques autour du pape, ou bien soit par une définition du pape, le fou pontifical, comme on dit, où le pape parle ex cathedra, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ex cathedra, ça veut dire de sa chair, de son siège. On dit ça une cathèdre, des fois, pour un certain siège ancien, qu'on peut acheter, qu'on peut avoir ses choix, chez soi, hein, une cathèdre, alors de sa chaire d'évêque de Rome. Là, quand il parle de là, c'est ici qu'il utilise son autorité, il est en lien, puis en accord avec tous les évêques. Hein. Il s'agit alors, dans l'un et l'autre cas, d'un dogme de foi défini, puis c'est très très rare. La proposition peut aussi se faire à travers l'enseignement ordinaire et universel de l'Église, tel que cet enseignement s'exprime par exemple dans sa liturgie. Sa liturgie alors de ce qu'on appelle un dogme de foi. Avez-vous déjà pensé que, mettons, la conception virginale de Jésus dans le sein de la Vierge Marie, c'est un dogme de foi alors qu'il n'a jamais été officiellement publié, saviez-vous ça? L'Assomption de Marie dans le ciel, célébrée depuis le 7e siècle dans la liturgie du 15 août, est apparemment un dogme de foi, même chez les Anglicans, avant qu'il ne devienne, par la proclamation solennelle du 1er novembre 1950, je m'en souviens encore quand c'est apparu dans les journaux, mais c'est devenu un dogme de foi défini par le pape Pie XII. Je passe maintenant à ce qu'on pourrait appeler le progrès du dogme. Ça peut surprendre ce bien du monde, le progrès du dogme. C'est que l'Esprit Saint, on le sait, est présent. L'Esprit Saint, c'est Dieu. C'est tout l'amour de Dieu. Il est présent puis agissant dans le cœur des chrétiens. Et l'Esprit Saint leur permet, aux chrétiens, là, donc, de progresser dans l'intelligence, dans la compréhension du mystère du Christ. Qui dit ça? Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 3, verset 4. Semblable au répétiteur qui reprend à la maison la leçon du professeur à l'école pour essayer d'enseigner à quelqu'un qui a de la misère, mais l'Esprit ne nous donne pas un enseignement nouveau. Il nous introduit dans la vérité toute entière, c'est dans Saint Jean, chapitre 16. Déjà au 5e siècle, le fameux Saint Vincent de Lérins, une excellente théologie, il justifiait ce développement des dogmes, ce développement dogmatique, en le comparant, et c'est très beau, à celui du corps humain. Il rappelait que le progrès d'un être ne modifie pas son essence. Bon, je vais vous m'expliquer. Je cite longuement, mais enfin un texte important, donc de Saint Vincent de Lérins, ça date de 1500 ans, imaginez, plus de 1500 ans. Il dit, ne peut-il y avoir dans l'Église du Christ aucun progrès de la religion? Il dit, oui, assurément, et un très grand. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ajoute, car qui serait assez jaloux des hommes et ennemis de Dieu pour essayer d'empêcher ce progrès? À condition du moins qu'il s'agisse d'un véritable progrès dans la foi, mais non d'un changement. Hein? Car il y a progrès dans la foi si une réalité s'amplifie, s'agrandit, s'approfondit, en demeurant elle-même. Mais il y a changement si elle se transforme en une autre réalité. Et Saint Vincent de Lérins continue. Imaginez, ça a 1500 ans, ça. Il y a des gens qui s'imaginent que c'est pas possible qu'un dogme évolue. Il dit que la religion imite donc la croissance des corps, dont les éléments évoluent et se développent au rythme des années, mais demeurent eux-mêmes. Il utilise une comparaison très intéressante, ce Saint Vincent de Lérins. Il dit, il y a une grande différence entre la fleur de l'enfant et la maturité de la vieillesse. Et pourtant, ceux qui maintenant deviennent des vieillards sont bien les mêmes que les adolescents qu'ils furent autrefois. La stature et les manières d'un homme peuvent changer, mais sa nature demeure identique, ainsi que sa personne. Il termine en disant, les membres des nouveau-nés sont tout petits. Ceux des jeunes gens ont grandi, et pourtant ce sont les mêmes. Les petits-enfants possèdent autant de membres que les adultes. Et si certains apparaissent seulement à l'âge mûr, l'embryon, dit-il, ne les contenait pas moins en puissance. Hein? L'embryon ne les contenait pas moins en puissance. Ça date de 1500 ans, cette notion-là. Les gens qui pensent qu'il n'y a rien avant la naissance, comme certains avorteurs, se trompent complètement. Hein. C'est étrange, c'est dit, à 1500 ans. Puis il ajoute, il termine, si bien que rien de nouveau ne se manifeste chez le vieillard qui n'ait d'abord été en germe chez l'enfant. C'est dans... On trouve ça, ceux qui ont le bréviaire en 4 tomes, là, peuvent, dans le 4e volume, tout retracer ça, page 156, lors de la fête de Saint-Vincent-de-Lérins. C'est cette notion de développement qui a permis à Newman, Cardinal Newman, le fameux anglican devenu catholique, d'accepter peu à peu toute l'évolution de la pensée catholique depuis la réforme protestante, puis la réforme catholique en particulier, dans le domaine marial. Il a compris que cette mariologie se trouvait en germe dans l'Écriture sainte elle-même. Voici ce que disait Newman, qui était un des hommes, je vous le répète, les plus intelligents du 19e siècle. Il dit dans son essai sur le développement de la doctrine chrétienne, « Ici-bas, vivre, c'est changer. Être parfait, c'est avoir changé souvent. » Et ce qui peut nous surprendre, c'est que ce développement s'accomplit sous l'influence, tout d'abord, des hérésies. Ben oui, c'est une influence, ça. Parce que quand les hérésies surgissent dans l'interprétation de ce que nous devons croire, et dans le donné révélé, puis dans l'interprétation aussi des conciles précédents, pensons au développement de la christologie, de ce qu'il faut dire du Christ, à travers les 7 premiers conciles écuméniques qui sont acceptés par les orthodoxes, là. Mais ça a eu de l'influence. Puis, il y a aussi l'influence des questions nouvelles, des questions nouvelles qui surgissent et qui se posent à un certain moment de la vie de l'Église. Mettons simplement, au 4e siècle, s'est posé la question de savoir quelle valeur il fallait accorder au sacrement donné par des prêtres qui avaient renié la foi catholique au moment des persécutions, avec crainte de mourir. Or, il y avait des donatistes qui n'étaient pas tout à fait des catholiques. Eux contestaient la validité d'un baptême administré par de tels prêtres. Puis, a surgi Saint-Augustin. Qu'est-ce qu'il dit, Saint-Augustin? Il défendait la thèse contraire, et cette crise donatiste a aidé l'Église, donc, à mieux comprendre que la valeur d'un sacrement, écoutez bien, n'est pas liée à la sainteté du célébrant. C'est Saint-Augustin qui disait que ce soit Pierre, Paul ou Judas qui baptise, c'est toujours le Christ qui baptise. C'est la même chose pour la messe. Que ce soit Pierre, Paul ou Judas qui disent la messe. En 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1/2 heure ou 40 minutes, c'est toujours une messe, c'est toujours la même messe. Puis il y a l'influence aussi de la piété des fidèles, puis de la réflexion des théologiens, comme sur le développement de la mariologie. Je vous en parlerai le 1er mai. Alors, on pourrait se poser aussi une question importante, à quoi bon enfermer la richesse infinie de l'Église à l'intérieur de formule forcément imparfaite et limitée, mais je vais vous développer ça dans la 2e demi-heure, après avoir écouté à nouveau un extrait de L'Homme de Nazareth, de Flavien Pierson, interprété par Marc-Philippe Baudouin, qui dirige l'orchestre de l'Île de la Cité. Aujourd'hui, c'est la 2e émission consacrée à un sujet un peu difficile, mais qu'il faut vraiment aborder une fois dans sa vie. Est-ce que ceux qui ont la foi sont naïfs, insensés? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils ont perdu la boule, comme dirait l'autre? Je vous ai bien dit que des gens brillants, qui acceptent et qui croient, et qui grandissent et qui deviennent des saints à l'intérieur de cette Église. Je vous recommande d'ailleurs, en passant, de lire ce livre qui m'inspire aujourd'hui, le livre, que j'ai souvent mentionné, de Pierre Descouvemont, Guide des difficultés de la foi catholique paru il y a moins de 10 ans aux éditions du CERF. C-E-R-F, pour ceux qui l'ignorent. Un gros bouquin, qui est un peu cher, mais je vous le recommande parce que vous avez là toutes sortes de problèmes, de difficultés de la foi catholique qui sont analysés, étudiés et expliqués. Vous pourriez au besoin aussi prendre de René Marley, qui n'est pas n'importe qui. René Marley, c'est un jésuite. Quand il a publié le livre que je vais vous recommander, il était doyen de la faculté française de théologie de la Compagnie de Jésus. Il a écrit des ouvrages très savants. Il en écrit d'autres pour permettre aux gens de comprendre ce qu'il voulait dire dans ses livres trop savants. Et un de ses meilleurs livres, qui a 220 pages, s'intitule « Les quatre piliers de la catéchèse ». Souvent, on parle des cinq piliers de l'islam. Nous, on a quatre piliers de la catéchèse. C'est le credo de notre Père, les 10 commandements et les sacrements. C'est paru chez Le Sarment Fayard. C'est très intéressant. René Marley, M-A-R-L-E, accent aigu, jésuite, les quatre piliers de la catéchèse chez Fayard. Bon, revenons à nos oignons. On pourrait se poser donc une question importante. J'ai dit, à quoi bon enfermer toute cette richesse de l'Évangile dans des espèces de formules, des affaires qui peuvent paraître sèche. De toute façon, on aime se répéter ça aujourd'hui, que les mots sont piégés, que le langage est une chose trop humaine, trop relative. Il faut pouvoir exprimer tout ce mystère de Dieu. Alors pourquoi tu te brûles autour des dogmes de l'Église? Ah, les dogmes. Est-ce que l'Église a pas autre chose à faire qu'à essayer de bien parler de Dieu, n'est-ce pas? Quand même. Vraiment. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que l'orthopraxie, comme on dit, qu'est-ce que c'est que l'orthopraxie? C'est un comportement droit, en conformité avec l'Évangile. Tu sais, il faut vivre l'Évangile, être des témoins. C'est ça qui compte. Mais ça a beaucoup plus d'importance que l'orthodoxie, c'est-à-dire d'avoir une foi droite, en conformité avec la foi de l'Église. On entend ça souvent. C'est vrai, dans un sens. Mais je crois que les deux vont ensemble. Ça sert à rien de croire si on n'agit pas selon l'Évangile. Mais si on veut agir selon l'Évangile et qu'on ne croit pas vraiment que Jésus est Dieu, alors on ne communie plus. Parce que, ce n'est pas la présence du Christ, etc. Puis, on finit par tout démolir. Alors, quoi répondre à cette interrogation? Il est évident que les formules utilisées par l'Église au cours des siècles pour exprimer sa foi, ça n'épuise pas toute cette insondable richesse du mystère du Christ, comme on le trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3. Saint Paul qui dit ça. Disons-nous bien que les dogmes sont des garde-fous, des balises, si vous voulez, placées par l'Église sur notre chemin. Pourquoi? Mais pour orienter notre recherche. Pour éviter qu'on prenne le champ, comme disait l'autre. Pour nous permettre d'aller plus avant dans la connaissance savoureuse de ce mystère. Puis, une fois que je suis sûr, là, grâce au magistère de l'Église, une fois que je suis sûr que le corps ressuscité du Christ est vraiment présent sur l'autel sous les apparences du pain, je peux m'exposer avec joie à cette présence et m'en rassasier. Et de grâce, quand même, n'allons pas dire que cette connaissance assurée du mystère eucharistique n'a aucune importance sur notre pratique religieuse, sur notre vie. Voyons, il suffit de voir la façon dont le curé d'Ars, le saint curé d'Ars, a laissé cette vérité-là imprégner toute sa vie, tout son apostolat. Puis il n'est évidemment pas le seul. Des millions de catholiques ont été imprégnés par la présence réelle, par cette joie de s'unir au Christ et de tomber, si on peut dire, dans les bras du Père, dans l'union de l'Esprit Saint, dans cette immense offrande que le sacrifice eucharistique, sacrifice d'action de grâce. Même si les formules n'épuisent pas toute la richesse du mystère chrétien, les dogmes disent quelque chose d'objectif sur le Christ et sur Dieu lui-même. Or, on pourrait se traîner derrière Karl Barth, qui disait, je tiens l'analogie de l'aide pour l'invention de l'antéchrist, parler de Dieu
avec des mots humains, en somme. Et j'estime qu'une telle théorie rend impossible l'adhésion au catholicisme. Pourtant, me semble que Karl Barth, puis tous les autres protestants qui disent des choses comme ça, devraient savoir que la grande tradition chrétienne affirme au contraire que Dieu nous aime tellement qu'il a voulu nous faire entrer par le Christ dans les secrets de sa vie intime. Il n'est pas seulement venu nous dire ce qu'il attend de nous, mais ce qu'il est en lui-même, il nous l'a dit, et c'est très important. Écoutez bien ce que dit Jésus à ce sujet, hein, c'est dans Matthieu chapitre 11, « Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Puis dans Saint Jean chapitre 1, « Nul n'a jamais vu Dieu. » Le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Dans Saint Jean encore chapitre 16, « L'heure vient. » où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. En toute clarté. C'est assez clair. On peut, évidemment, si... ce ne serait pas un peu naïf ou plutôt insensé que de croire en des dogmes pour connaître Dieu. Or, dans un bel ouvrage de Claude Bruère que j'ai eu la chance de connaître à Rome et à Paris, quel homme admirable. Dans son livre qu'il m'avait donné, La force de l'esprit, il écrit « Le problème d'une révélation est une question réelle pour la pensée. Si nous sommes habitués à ce mot, il signifie pourtant exactement ce que tout athéisme répudie, à savoir qu'un Dieu puisse être ouvert à nous, qu'une parole de lui puisse être entendu, et pas simplement des mots de lui qui seraient aléatoires, qui n'auraient pas de vérité, sinon pour nous enseigner une conduite. Il dit plus loin, s'il y a révélation, cela veut dire une parole de Dieu qui dit ce que Dieu est, parole qui est un manifeste de son existence. Mais à l'intérieur d'une religion comme le christianisme, assurément, ce ne sont pas simplement les propos du Christ, mais toute la geste de Dieu, tout ce qu'il fait, qui manifeste ce qu'il est. Autrement, une révélation serait un mensonge. Elle serait des mots proférés du bout des lèvres qui n'offriraient pas ce qu'il est, ce qu'il en est de Dieu en vérité. Alors, une révélation de Dieu est-elle possible? Oui, dit Claude Bruère, oui, si Dieu le décide, si Dieu la décide. Une parole... est-elle possible comme parole de Dieu? Oui, dit Claude Bruère, si Dieu en prend l'initiative. Alors, l'optimisme catholique sur la possibilité que nous avons dès cette vie, ici-bas, sur terre, d'entrer dans la connaissance du mystère de Dieu, une connaissance qui doit devenir savoureuse et dynamisante, évidemment, est dans la logique du mystère inouï de l'incarnation qu'on vient de célébrer. Qu'est-ce que c'est que cette incarnation? Venu du cœur même de la vie trinitaire, le Verbe de Dieu, le Fils éternel de Dieu, éternel, je dis bien, nous a fait confidence de ce qui se passait dans cet océan de tendresse trinitaire, pour que nous y entrions et que nous y demeurions. Oh, révélation immense! Oh, joie, joie! Et le pouvoir de magistère qu'il a confié à son Église est tout à fait conforme à l'amour avec lequel il a voulu se révéler, afin que nous puissions, nous, dès ici-bas, le contempler sans risque d'erreur, sans s'en aller de tous côtés n'importe comment. Il me semble que c'est logique, c'est loin d'être insensé et naïf. C'est pas naïf. Saviez-vous que d'autre part, il y a une hiérarchie des dogmes, hein? Ils n'ont pas tous la même importance. Ça peut-être choquer des gens, ça. Dans son décret sur l'écuménisme, le Concile Vatican II invite les théologiens catholiques à exposer la doctrine catholique en montrant la hiérarchie de ses différents éléments. Toutes les vérités de la doctrine catholique, remarque justement, le Concile, là, c'est les évêques avec le pape, n'ont pas le même rapport avec les fondements de la foi chrétienne. Il y avait un évêque, Monseigneur Pangradio, qui avait proposé au Concile cette idée de hiérarchie. Il s'était référé à la distinction classique entre quoi? Entre les vérités qui relèvent de l'ordre de la foi, bon, Par exemple, les mystères de la Sainte Trinité, de l'incarnation du Verbe, l'amour et la grâce de Dieu envers l'homme pécheur, la vie éternelle dans le règne de Dieu, etc. Puis, les autres vérités qui relèvent de l'ordre des moyens de salut, si vous voulez, de libération profonde de notre être. Comme par exemple les sept sacrements, la structure hiérarchique de l'Église, la succession apostolique. C'est pas que c'est pas important, mais c'est moins important. Cette remarque a évidemment suscité un très grand intérêt parmi les observateurs non catholiques du Concile. Écoutez ce que disait Oscar Kuhlmann, ce grand théologien protestant français, spécialiste du Nouveau Testament et de l'Église primitive. Et Oscar Kuhlmann a déclaré, qui était observateur, était là, a déclaré que c'était, selon lui, la déclaration la plus importante qui ait été faite au Concile. Qu'est-ce qu'a dit Jean-Paul II, lui? Lors de sa visite à Genève, le pape Jean-Paul II, c'est lors d'une rencontre, n'est-ce pas, avec le pasteur Wiesertoft, qui était président d'honneur du Conseil œcuménique des Églises, un protestant, lui. C'était le 12 juin 1984, je vous donne la date. Donc, lors de cette visite de juin 84 à Genève, le pape Jean-Paul II a reconnu avoir été lui-même, écoutez bien, très touché, intéressé, inquiété, provoqué par cette formule. Et il ajoute, « Si l'Esprit nous a laissé nous exprimer ainsi lors du Concile, alors ce doit être, ce doit avoir plutôt un intérêt divin. » Bon, ben, venons-en maintenant à la réflexion théologique qui montre bien encore une fois que ceux qui ont la foi ne sont pas insensés ou naïfs. La réflexion théologique, elle a pour but de mieux entrer dans l'intelligence, la compréhension des paroles de l'Écriture sainte de la Bible, notamment de ces paroles mystérieuses, dont l'Église garantit la profondeur dans une définition dogmatique. Une réflexion théologique, notamment sur l'Eucharistie, ne supprime pas son caractère mystérieux, mais cette réflexion théologique sur l'Eucharistie, elle nous permet, écoutez bien, de mieux apprécier le don que Dieu le Père nous fait en nous livrant le corps et le sang de son divin Fils ressuscité, vivant, qui nous comble de l'amour infini, qui les unit, son Père et lui, en un seul Dieu. C'est très important. La façon de réfléchir consiste en effet à montrer, en théologie, la meilleure harmonie qui relie les uns aux autres les différents aspects de la foi chrétienne. Une méthode qui est bien exprimée dans la Constitution Dogmatis Dei Filius du Concile Vatican I, déjà. Voici en ces lignes, ils disent, « Lorsque la raison, éclairée par la foi, cherche avec soin, piété et modération, elle arrive, par le don de Dieu, à une certaine intelligence très fructueuse des mystères, soit grâce à l'analogie avec les choses qu'elle connaît naturellement, là, soit grâce au lien qui relie les mystères entre eux et avec la fin dernière de l'homme, parce que tous ces mystères se tiennent ensemble, et c'est d'une grande beauté. En somme, disons que la réflexion des théologiens peut éventuellement préparer la voie à un progrès dogmatique et scientifique en imaginant une distinction entre deux manières de bénéficier de la rédemption, ce qui a lieu actuellement dans l'Église, accompli par le Christ, là. Ben, le franciscain Don Scott, il a permis, lui, dans son temps, il y a des siècles et des siècles, à d'autres théologiens, d'accepter sans scrupule la croyance spontanée du peuple chrétien à l'Immaculée Conception. Un privilège qui semblait, aux yeux de certains, s'opposer à l'universalité du salut opéré par le Christ. Mais la Vierge, a remarqué Don Scott, a eu besoin, comme nous, tous, d'être sauvés par le Christ, arrachés. Mais, au lieu de recevoir une grâce de guérison, elle a reçu une grâce tout aussi gratuite de préservation. C'est ce qu'il a conclu. Et c'est pas bête. Et ça se tient. Et c'est logique. Et ça n'est pas insensé et naïf. Passons maintenant à une petite pause. On va encore écouter, mais cette fois-ci, dans l'extrait de L'homme de Nazareth, ce sera un poème du compositeur Pierre Villette, interprété par Marc-Philippe Baudouin, qui dirige l'orchestre de l'île de la Cité. Mmh. terminer en remarquant que l'Église a bien soin quand c'est question des dogmes, quand elle prononce une définition dogmatique. Elle a bien soin de ne pas prendre parti dans les discussions que se font les théologiens les uns plus ou moins contre les autres. Lorsque, par exemple, le pape Pie XII a prononcé solennellement, j'en ai parlé le 1er novembre 1950, le dogme de l'Assomption de Marie, corps et âme, dans la gloire du ciel, il a laissé ouverte la question débattue entre des théologiens. Qu'est-ce que c'était? Il y a des théologiens qui se demandent, est-ce que Marie, à l'exemple de son fils, est passée par la mort avant de ressusciter? Ou est-elle passée directement de sa condition terrestre à la condition glorieuse? C'est la thèse de la, ce qu'on appelle la dormition. Elle ne fait que s'endormir. Peu importe. On peut croire ce qu'on veut. C'est pas défini. Ça ne le sera jamais. On ne le dira jamais assez. Mais ça ne fait pas plaisir à tout le monde. L'Église nous demande de croire aux dogmes qu'elle a énoncés au cours de son histoire, mais elle ne nous demande jamais d'adopter les opinions, les interprétations théologiques du Père X ou du Père Z. Quand même, la réflexion théologique se situe surtout après les définitions dogmatiques. Selon la fameuse formule de Saint Anselme, là, credo ut in tel ligam. Avez-vous déjà entendu ça, les plus vieux? Commence par croire pour comprendre ensuite. On commence par croire, et c'est vrai qu'après on comprend. Mais c'est une condition fondamentale de croire. C'est de faire un saut. Si on ne saute pas, il n'y a rien. C'est un peu comme l'incroyant qui se jette à genoux, qui dit « Mon Dieu, si tu existes, change mon cœur. » Et à sa grande surprise, ça leur arrive, leur cœur est changé. Le rôle du théologien, à quoi ça sert? Ça sert à faire apparaître la cohérence des dogmes, à montrer la saveur aussi des dogmes. Le théologien sert aussi à montrer combien les dogmes s'enracinent dans la Bible, puis dans la grande tradition. Le théologien, il essaie d'exprimer en langage moderne, toujours renouvelé, l'éternelle nouveauté de l'Évangile. Le théologien, ça travaille au rapprochement entre les chrétiens aussi. C'est une des tâches primordiales à laquelle sont conviés dans leurs églises et théologiens d'aujourd'hui. C'est très important. Très, très important. On répète souvent à la messe, Christ est venu, Christ reviendra. Ceux qui vont encore à la messe connaissent ça. On chante ça après la consécration du pain et du vin au corps et au sang du Christ. C'est en apercevant toutes les conséquences de cette double proclamation, Christ est venu, Christ reviendra, qui se situe au cœur de leur foi, que les disciples du Christ peuvent accepter tout ce que je viens de vous dire, jeudi dernier, puis aujourd'hui. Les temps messianiques sont déjà arrivés dans un sens. Après nous avoir longtemps parlé par ses prophètes, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils et nous a révélé de lui des vérités définitives. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au tout début, tout début. Donc, l'assurance du discours, qu'on peut dire dogmatique de l'Église, là, quand elle parle avec des dogmes, ça s'enracine dans cette conviction-là, que Dieu nous a parlé par son Fils, puis nous a révélé par lui des vérités définitives. Le temps des balbutiements depuis le Christ, là, c'est passé. Le temps des balbutiements sur Dieu est achevé. La fin des temps, dans un sens, là, est arrivée. Le Verbe de Dieu, la parole éternelle de Dieu, en personne, il a parlé. Et il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront point. Mais le Christ est encore à venir. Ses disciples attendent son retour. Viens, Seigneur Jésus, on le dit à la messe. Viens, Seigneur Jésus. Nous, les disciples, nous supplions l'Esprit de nous mener vers la vérité tout entière. Et ça, c'est très, très important. Et l'Église n'hésite pas à aller toujours plus loin dans l'intelligence du message que son maître lui a laissé. Et ce message doit se répandre dans tout l'univers, pénétrer toutes les cultures et s'y adapter. Alors, animée de cette autre conviction, l'Église n'en finit pas de scruter les Écritures, elle continue toujours pour y découvrir toutes les dimensions du mystère insondable de son Seigneur. Celui qui l'a fondée et établie, cette Église, sur Pierre et ses successeurs, c'est Dieu lui-même. Et la plupart des tensions entre catholiques viennent du fait qu'ils sont plus ou moins sensibles à l'une ou l'autre de ces deux vérités complémentaires, aussi importantes l'une que l'autre, parce que des vérités profondes auxquelles on adhère, et c'est la joie. Certains s'émerveillent davantage que le Christ soit déjà venu et qu'il soit avec nous pour toujours. D'autres veulent vivre davantage dans l'attente de son retour, soucieux de ne pas s'endormir dans la possession béate de la vérité, toujours en quête de nouveaux horizons encore inexplorés. Ça va. On montrerait sans peine que nos frères orthodoxes sont plus sensibles au déjà-là du royaume. Tout a été dit dans les sept premiers conciles œcuméniques, disent-ils les hommes. Et que nos frères protestants, eux, rappellent volontiers à l'Église qu'elle ne doit jamais se prendre pour le royaume des cieux. Bah, nous ne sommes pas encore au paradis, et les catholiques le savent bien. Écoutez ce que dit Paul VI en 1975, c'est superbe. L'évangélisation, dit le pape, ce grand saint pape, que j'aime beaucoup, l'évangélisation perd beaucoup de sa force et de son efficacité si elle ne prend pas en considération le peuple concret auquel elle s'adresse, si elle n'utilise pas sa langue, ses signes, ses symboles, si elle ne répond pas aux questions qu'il pose, si elle ne rejoint pas sa vie concrète. Mais d'autre part, l'évangélisation risque de perdre son âme, et ça c'est important, c'est pour ça que j'ai fait ces deux émissions-là. L'évangélisation risque de perdre son âme et de s'évanouir si l'on vide ou dénature son contenu sous prétexte de le traduire. Si voulant adapter une réalité universelle à un espace local, on sacrifie cette réalité puis on détruit l'unité sans laquelle il n'y a pas d'universalité. Or, seule une Église, oui, seule une Église qui garde la conscience de son universalité, de sa catholicité, je dirais, et montre qu'elle est en fait universelle, peut avoir un message capable d'être entendu par tous au-delà des limites régionales. Et puis Paul VI continue dans cette exhortation apostolique sur l'évangélisation qui datait du 8 décembre 1975, « Une légitime attention aux églises particulières ne peut qu'enrichir l'Église. Elle est indispensable et urgente. Elle répond aux aspirations les plus profondes des peuples et des communautés humaines à trouver toujours davantage leur propre visage. » Oui. Il faut que l'Église universelle respecte les Églises locales, l'Église du Québec, l'Église du Canada, l'Église des États-Unis, l'Église du Brésil, etc. C'est fondamental. J'espère que je vous ai fait aimer cette Église qui nous sert des dogmes pensés, analysés et inspirés par l'Esprit-Saint et qui ravive et solidifie notre foi. Il nous permet de savoir où nous allons, sa croix nous devons croire pour croire vraiment de façon logique, intelligente et belle, et non pas d'une façon plus ou moins insensée et naïve, au contraire. Au contraire!